Chapitre 9. Personne dans la ville assiégée ne s'était douté que la moitié des Zaporogues eût levé le temps pour se mettre à la poursuite des Tartares. Du haut du beffroi de l'hôtel de ville, les sentinelles avaient seulement vu disparaître une partie de bagages derrière les bois voisins. Mais ils avaient pensé que les Cosaques se préparaient à dresser une embuscade. L'ingénieur français était du même avis. Cependant, les paroles du Kochevoy n'avaient pas été vaines. La disette se faisait de nouveau sentir parmi les habitants. Selon l'usage des temps passés, la garnison n'avait pas calculé ce qu'il lui fallait de vivre. On avait essayé de faire une nouvelle sortie, mais la moitié de ces audacieux était tombée sous les coups des Cosaques, et l'autre moitié avait été refoulée dans la ville sans avoir réussi. Néanmoins, les Juifs avaient mis à profit la sortie. Ils avaient flairé et dépisté tout ce qui leur importait d'apprendre, à savoir pourquoi les Zaporogues étaient partis et vers quel endroit ils se dirigeaient, avec quel chef, avec quel kourénie, combien étaient partis, combien étaient restés et ce qu'ils pensaient faire. En un mot, au bout de quelques minutes, on savait tout dans la ville. Les colonels reprirent courage et se préparèrent à livrer bataille. Taras devinait leurs préparatifs au mouvement et au bruit qui se faisaient dans la place. Il se préparait de son côté. Il rangeait ses troupes, donnait des ordres, divisait les colonies en trois corps et les entourait de bagages comme d'un rempart, espèce de combat où les Zaporogues étaient invincibles. Il ordonna à deux kourénies de se mettre en embuscade. Il couvrit une partie de la plaine de pieux aigus, de débris d'armes, de tronçons de lances, afin que l'occasion il pût y jeter la cavalerie ennemie. Quand tout fut ainsi disposé, il fit un discours aux Cosaques, non pour les ranimer et leur donner du courage, il les savait fermes de cœur, mais parce que lui-même avait besoin d'épancher le sien. « J'ai envie de vous dire, mes seigneurs, ce qu'est notre fraternité. Vous avez appris de vos pères et de vos aïeux en quel honneur ils tenaient toute notre terre. Elle s'est fait connaître aux Grecs. Elle a pris des pièces d'argent d'or à Tsargrad. Elle a eu des villes somptueuses et des temples, et des kniazes de sang russe et des kniazes de son sang, mais non pas de catholiques hérétiques. Les païens ont tout pris, tout est perdu. Nous sommes seuls, nous, dont restés, mais orphelins, et comme une veuve qui a perdu un puissant époux, de même que nous, notre terre, est restée orpheline. Voilà dans quel temps, compagnons, nous nous sommes donné la main en signe de fraternité. Voilà sur quoi se base notre fraternité. Il n'y a pas de lien plus sacré que celui de la fraternité. Le père aime son enfant, la mère aime son enfant, l'enfant aime son père et sa mère. Mais qu'est-ce que cela, frère? La bête féroce aime aussi son enfant. Mais s'apparenter par la parenté de l'âme, non par celle du sang, voilà ce que le peut l'homme seul. Il s'est rencontré des compagnons sur d'autres terres, mais des compagnons comme sur la terre russe, nulle part. Il est arrivé, non à l'un de vous, mais à plusieurs, de s'égarer en terre étrangère. Eh bien, vous l'avez vu, là aussi il y a des hommes, là aussi les créatures de Dieu. Et vous leur parlez comme à l'un d'entre vous. Mais quand on vient au point de dire un mot parti du cœur, vous l'avez vu, ce sont des hommes d'esprit et pourtant ils ne sont pas des vôtres. Ce sont des hommes mais pas les mêmes hommes. Non, frère, aimez comme on aime un cœur russe, aimez non par l'esprit seulement mais par tout ce que Dieu a donné à l'homme, par tout ce qu'il y a en vous, ah, dit Taras avec son geste de décision en secouant sa tête grise et relevant le coin de sa moustache. Non, non, personne ne peut aimer ainsi. Je sais que maintenant de lâches coutumes se sont introduites dans notre terre. Ils ne songent qu'à leurs meules de blé, à leurs tas de foin, à leurs troupeaux de chevaux. Ils ne veillent qu'à ce que leurs hydromels cachetés se conservent bien dans leurs caves. Ils imitent le diable, sait quel usage païen. Ils ont honte de leur langage. Le frère ne veut pas parler avec son frère. Le frère vend son frère comme on vend au marché un être sans âme. La faveur d'un roi étranger, pas même d'un roi, la pauvre faveur d'un magnat polonais, qui de sa botte jaune leur donne des coups sur le museau, leur est plus cher que toute fraternité. Mais chez le dernier des lâches, se fut-il souillé de boue et de servilité, chez celui-là, frère, il y a encore un grain de sentiment russe. Et un jour il se réveillera et il frappera le malheureux des deux poings sur les basques de son juste au corps. Il se prendra la tête entre des deux mains et il maudira sa lâche existence, prête à racheter par le supplice une ignoble vie. Qu'ils sachent donc tous ce que signifie sur la terre russe la fraternité. Et si le moment est déjà venu de mourir, certes aucun d'eux ne mourra comme nous. Aucun d'eux, aucun. Ce n'est pas donné à leur nature de souris. Ainsi parlait l'ataman. Et son discours fini, il secouait encore sa tête qui s'était argentée dans des exploits de cosaque. Tous ceux qui l'écoutaient furent vivement émus par ce discours qui pénétra jusqu'au fond des cœurs. Les plus anciens, dans les rangs, demeurèrent immobiles, inclinant leur tête grise vers la terre. Une larme brillait sous les vieilles paupières. Ils l'essuyèrent lentement avec la manche, et tous, comme s'ils se fussent donné le mot, firent à la fois leur geste d'usage pour exprimer un parti pris, et secouèrent résolument leur tête chargée d'années. Taras avait touché juste. Déjà l'on voyait sortir de la ville l'armée ennemie, faisant sonner les trompettes et les clairons, ainsi que les seigneurs polonais, la main sur la hanche, entourés de nombreux serviteurs. Le gros colonel donnait des ordres. Ils s'avançaient rapidement sur les cosaques, les menaçant de leurs regards et de leurs mousquets, abrités sous leurs brillantes cuirasses d'airain. Dès que les cosaques virent qu'ils s'étaient avancés à portée, tous déchargèrent leurs longs mousquets de 6 pieds et continuèrent à tirer sans interruption. Le bruit de leurs décharges s'étendit au loin dans les plaines environnantes comme un roulement continu. Le champ de bataille était couvert de fumée et les aporogues tiraient toujours sans relâche. Ceux des derniers rangs se bornaient à charger les armes qu'ils tendaient aux plus avancés, étonnant l'ennemi qui ne pouvait comprendre comment les cosaques tiraient sans recharger leurs mousquets. Dans les flots de fumée grise qui enveloppaient l'une et l'autre armée, on ne voyait plus comment tantôt l'un et tantôt l'autre manquaient dans les rangs. Mais les Polonais surtout sentaient que les balles pleuvaient épaisses. Et lorsqu'ils reculèrent pour sortir des nuages de fumée et pour se reconnaître, ils virent bien des vides dans leurs escadrons. Chez les Cosaques, 3 hommes au plus avaient péri, et ils continuaient incessamment leur feu de mousqueterie. L'ingénieur étranger s'étonna lui-même de cette tactique qu'il n'avait jamais vue employée, et il dit à haute voix : Oh, ce sont des braves, ces aporogues! Voilà comment il faut se battre dans tous les pays. Il donna le conseil de diriger les canons sur le camp fortifié des Cosaques. Les canons de bronze rugirent sourdement par leur large gueule. La terre trembla au loin et toute la plaine fut encore noyée sous des flots de fumée. L'odeur de la poudre s'étendit sur les places et dans les rues des villes, les villes voisines et les villes lointaines. Mais les canonniers avaient pointé trop haut. Les boulets rougis décrivirent une courbe trop grande. Ils volèrent en sifflant par-dessus la tête des Cosaques et s'enfoncèrent profondément dans le sol en labourant au loin la terre noire. À la vue d'une pareille maladresse, l'ingénieur français se prit par les cheveux et pointa lui-même les canons, quoique les Cosaques fissent pleuvoir les balles sans relâche. Taras avait vu de loin le péril qui menaçait les Kourénis de Debassaïkov et de Strebikov, et s'était écrié de toute sa voix « Quittez vite, quittez les chariots, et que chacun monte à cheval !» Mais les Cosaques n'auraient eu le temps d'exécuter ni l'un ni l'autre de ces ordres, si Ostape ne s'était point porté droit sur le centre de l'ennemi. Il arracha les mèches aux mains des six canonniers, à quatre autres seulement il ne put les prendre. Les Polonais le refoulèrent. Alors l'officier étranger prit lui-même une mèche pour mettre le feu à un canon énorme, tel que les Cosaques n'en avaient jamais vu. Il ouvrait une large gueule béante par laquelle regardaient mille morts. Lorsqu'il tonna, et trois autres après lui, qui de leur quadruple coup ébranlèrent sourdement la terre, ils firent un mal affreux. Plus d'une vieille mère cosaque pleurera son fils et se frappera la poitrine de ses mains osseuses. Il y aura plus d'une veuve à Gloukhov, Nemirov, Tchernigov et autres villes. Elle courra, la veuve éplorée, tous les jours au bazar. Elle se cramponnera à tous les passants, les regardant aux yeux pour voir s'il ne se trouvera pas parmi eux le plus cher des hommes. Mais il passera par la ville bien des troupes de toutes espèces, sans que jamais il se trouve parmi elles le plus cher de tous les hommes. La moitié du couren de Nesamarikov n'existait plus. Comme la grêle abat tout un champ de blé, où chaque épi se balance semblable à un ducat de poids, ainsi le canon balaye et couche les rangs cosaques. En revanche, comme les Cosaques s'élancèrent, comme tous se ruèrent sur l'ennemi, comme l'ataman Kubukubenko bouillonna de rage quand il vit que la moitié de son couren n'existait plus, il entra avec les restes des gens de Nespassaïkov au centre même des rangs ennemis, hacha comme du chou dans sa fureur le premier qui se trouva sous sa main, désarma plusieurs cavaliers, frappant de sa lance homme et cheval, parvint jusqu'à la batterie et s'empara d'un canon. Il regarde, et déjà l'ataman du couren de Juman l'a précédé, et Stéphane Gouska a pris la pièce principale. Leur cédant alors la place, il se tourne avec les siens contre une autre masse d'ennemis. Où les gens de Nikolsamarkov ont passé, il y a une rue, où il tourne un carrefour. On voyait s'éclaircir les rangs ennemis et les Polonais tomber comme des gerbes. Près des chariots même se tient Vovtusenko, devant lui Tcherevitchenko. Au-delà des chariots, Degarenko, et derrière lui l'ataman du Kouren, Verkitskist. Déjà, Destranko a soulevé deux Polonais sur sa lance. Mais il en rencontre un troisième, moins facile à vaincre. Le Polonais était souple et fort et magnifiquement équipé. Il avait amené à sa suite plus de 50 serviteurs. Il fit plier les Grarenko, le jeta par terre, et levant son sabre sur lui, s'écria « Il n'y a pas un seul de vous, chien cosaque, qui osa me résister !»« Si pourtant, il y en a un, » dit Mnosichilo, et il s'avança. C'était un fort cosaque qui avait plus d'une fois commandé sur mer et passé par bien des épreuves. Les Turcs l'avaient pris avec toute sa troupe à Trébizonde et les avaient tous emmenés sur leurs galères, les fers aux pieds et aux mains, les privant de riz pendant des semaines entières, et leur faisant boire l'eau salée. Les pauvres gens avaient tout souffert, tout supporté, plutôt que de renier leur religion orthodoxe. Mais l'Ataman Myozishilo n'eut pas le courage de souffrir. Il foula aux pieds la sainte loi, entoura d'un ruban odieux sa tête pécheresse, entra dans la confiance du pacha, devint magasinier du vaisseau et chef de la chiourme. Cela fit une grande peine aux pauvres prisonniers. Ils savaient que si l'un des leurs vendait sa religion et passait au parti des oppresseurs, il était plus pénible et plus amer d'être sous sa main. C'est ce qui arriva. Myozishilo leur mit à tous de nouveaux fers, en les attachant trois à trois, les lia de cordes jusqu'aux os, les assomma de coups sur la nuque, et lorsque les Turcs, satisfaits d'avoir trouvé un pareil serviteur, commencèrent à se réjouir et s'enivrèrent sans respect pour les lois de leur religion, il apporta les 64 clés des fers aux prisonniers afin qu'ils puissent ouvrir les cadenas, jeter leurs liens à la mer et les échanger contre des sabres pour frapper les Turcs. Les Cosaques firent un grand butin et revinrent glorieusement dans leur patrie, où pendant longtemps les joueurs de bandoura glorifièrent Myozishilo. On l'eût bien élu Kouchevoy, mais c'était un étrange Cosaque. Quelquefois, il faisait une action que le plus sage n'aurait pas imaginée. D'autres fois, il tombait dans une incroyable bêtise. Il but et dissipa tout ce qu'il avait acquis, s'endetta près de tous à la Sech, et pour combler la mesure, il se glissa la nuit comme un voleur dans les rues, dans un courrier étranger, et enleva tous les harnais et les mit en gage chez le cabaretier. Pour une action si honteuse, on l'attacha à un poteau sur la place du bazar, et l'on mit près de lui un gros bâton afin que chacun, selon la mesure de ses forces, puisse lui en asséner un coup. Mais parmi les aporogues, il ne se trouva pas un seul homme qui leva le bâton sur lui, se souvenant des services qu'il avait rendus. Tel et tel le Cosaque Myozishilo. « Si pourtant, il y en a pour vous rosser, chien !» dit-il en s'élançant sur le Polonais. Aussi comme ils se battirent. Cuirasses et brassards se plièrent sous leurs coups à tous deux. Le Polonais lui déchira sa chemise de fer et lui atteignit le corps de son sabre. La chemise du Cosaque rougit, mais Kilo n'y fit nulle attention. Il leva sa main, elle était lourde, sa main noueuse, et il étourdit son adversaire d'un coup sur la tête. Son casque de bronze vola en éclats, le Polonais chancela et tomba de la selle, et Kilo se mit à sabrer en croix l'ennemi renversé. Cosaque, ne perds pas ton temps à l'achever, mais retourne-toi plus tôt. Il ne se retourna point, le Cosaque. De tous côtés résonnait un bruit de mousqueterie. Kilo chancela et sentit que sa blessure était mortelle. Il tomba, mit la main sur sa plaie et se tournant vers ses compagnons, « Adieu, seigneur, frère, camarade, dit-il, que la terre russe orthodoxe reste debout pour l'éternité et qu'il lui soit rendu un honneur éternel. » Il ferma ses yeux éteints et son âme cosaque quitta sa farouche enveloppe. Déjà Zadororini s'avançait à cheval et l'ataman de Kouren Vertiskivis et Balaban s'avançaient aussi. « Dites-moi, seigneur, s'écria Taras en s'adressant aux atamans des Kourénis, y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières? La force cosaque ne s'est-elle pas affaiblie? Les nôtres ne le plient-ils pas encore? » « Non, père, il y a encore de la poudre dans les poudrières, la force cosaque n'est pas affaiblie et les nôtres ne plient pas encore. » Et les Cosaques firent une vigoureuse attaque. Ils rompirent les rangs ennemis. Le petit colonel fit sonner la retraite et hissait 8 drapeaux peints pour rassembler les siens qui s'étaient dispensés dans la plaine. Tous les Polonais accoururent au drapeau. Mais ils n'avaient pas encore reformé leur rang que déjà l'ataman Kukubenko faisait, avec ses gens de Nemassaïkov, une charge en plein centre et tombait sur le colonel Ventru. Le colonel ne soutint pas le choc, et tournant son cheval, il s'enfuit à toute brise. Kukubenko le poursuivit longtemps à travers champs, sans le laisser rejoindre les siens. Voyant cela du couren voisin, Stepan Gouska se mit de la partie, son arcane à la main, courbant la tête sur le cou de son cheval, et saisissant l'instinct favorable, il lui jeta du premier coup son encane à la gorge. Le colonel devint tout rouge et saisit la corde des deux mains en s'efforçant de la rompre. Mais déjà un coup puissant lui avait enfoncé dans sa large poitrine la lame meurtrière. Gouska, toutefois, n'aura pas longtemps à se réjouir. Les Cosaques se retournaient à peine que déjà Gouska était soulevé sur 4 pics. Le pauvre ataman n'eut que le temps de dire « Périssent tous les ennemis et que la terre russe se réjouisse dans la gloire pendant des siècles éternels !» Et il exhala le dernier soupir. Les Cosaques tournèrent la tête et déjà d'un côté le Cosaque Metelitsa faisait fête aux Polonais en assommant tantôt l'un tantôt l'autre, et d'un autre côté l'ataman Nedvinitsky s'élançait à la tête des siens. Près d'un carré de chariot, Zakruti Guba retourne l'ennemi comme du foin et le repousse, tandis que devant un carré plus éloigné, le troisième Pissarenko a refoulé une troupe entière de Polonais. Et près du troisième carré, les combattants se sont saisis à bras-le-corps et luttent sur les chariots mêmes. « Dites-moi, seigneur !» s'écria l'ataman Taras en s'avançant au-devant des chefs. « Y a-t-il encore de la poudre dans les poudrières? La force cosaque n'est-elle pas affaiblie? Les Cosaques ne commencent-ils pas à plier ?» « Père, il y a encore de la poudre dans les poudrières, la force cosaque n'est pas affaiblie, les Cosaques ne plient pas encore. » Déjà, Bovduk est tombé du haut d'un chariot, une balle a frappé sous le cœur. Mais, rassemblant toute sa vieille âme, il dit « Je n'ai pas de peine à quitter le monde, Dieu veuille donner à chacun une fin pareille, et que la terre russe soit glorifiée. » Jusqu'à la fin des siècles. Chapitre 10. Il paraît que j'ai longtemps dormi, dit Taras en s'éveillant comme du pénible sommeil d'un homme ivre et en s'efforçant de reconnaître les objets qui l'entouraient. Une terrible faiblesse avait brisé ses membres. Il avait peine à distinguer les murs et les angles d'une chambre inconnue. Enfin, il s'aperçut que Tovkatch était assis auprès de lui et qu'il paraissait attentif à chacune de ses respirations. « Oui, pensa Tovask, tu aurais pu t'endormir pour l'éternité. » Mais il ne dit rien, le menaça du doigt et lui fit signe de se taire. « Mais dis-moi donc, où suis-je à présent ?» reprit Taras, en rassemblant ses esprits et en cherchant à se rappeler le passé. « Mais tais-toi donc !» s'écria brusquement son camarade. « Que veux-tu donc savoir de plus? Ne vois-tu pas que tu es couvert de blessures? Voici 2 semaines que nous courons à cheval à perdre haleine et que la fièvre et la chaleur te font divaguer. C'est la première fois que tu as dormi tranquillement. Mais tais-toi donc si tu ne veux pas te faire de mal à toi-même. » Cependant, Taras s'efforçait toujours de mettre ordre à ses idées et de se souvenir du passé. Mais j'ai donc été pris et cerné par les Polonais. Mais il m'était impossible de me faire jour à travers leurs rangs. Oh, te tairas-tu encore une fois, fils de Satan? S'écria Trouvalche en colère, comme une bonne poussée à bout par les cris d'un enfant gâté. Qu'as-tu besoin de savoir de quelle manière tu t'es sauvé? Il suffit que tu sois sauvé. Il s'est trouvé des amis qui ne t'ont pas planté là, c'est assez. Il nous reste encore plus qu'une de nuit à courir ensemble, et tu crois qu'on t'a pris pour un simple Cosaque? Non. Ta tête a été estimée 2000 ducats. Et Ostap? S'écria tout à coup Taras, qui essaya de se mettre sur son séant, en se rappelant soudain comment on s'était emparé d'Ostap sous ses yeux, comment on l'avait garrotté, comment il se trouvait aux mains des Polonais. Alors la douleur s'empara de cette vieille tête. Il arracha et déchira les bandages qui couvraient ses blessures. Il les jeta loin de lui. Il voulut parler à haute voix, mais ne dit que des choses incohérentes. Il était de nouveau en proie à la fièvre, au délire. Des paroles insensées s'échappaient sans lien et sans ordre de ses lèvres. Pendant ce temps, son fidèle compagnon se tenait debout devant lui, l'accablant de cruels reproches et d'injures. Enfin, il le saisit par les pieds, par les mains, l'emmaillota comme on fait d'un enfant, replaça tous les bandages, l'enveloppa dans une peau de bœuf, l'assujettit avec des cordes à la selle d'un cheval, et s'élança de nouveau sur la route avec lui. Fusses-tu mort, je te ramènerai dans ton pays. Je ne permettrai pas que les Polonais insultent à ton origine cosaque, qu'ils mettent ton corps en lambeaux et qu'ils les jettent dans la rivière. Si l'aigle doit arracher les yeux à ton cadavre, que ce soit l'aigle de nos steppes, non l'aigle polonais, non celui qui vient des terres de la Pologne. Allez, fusses-tu mort, je te ramènerai en Ukraine. Ainsi parlait son fidèle compagnon, fuyant jour et nuit, sans trêve ni repos. Il le ramena enfin, privé de sentiments, dans la Setch même des Aporogues. Là, il se mit à le traiter au moyen de simples et de compresses. Il découvrit une femme juive, habile dans l'art de guérir, qui pendant un mois lui fit prendre divers remèdes. Enfin, Taras se sentit mieux. Soit que l'influence du traitement fût salutaire, soit que sa nature de fer eût pris le dessus, au bout d'un mois et demi, il était sur pied. Ses plaies s'étaient fermées et les cicatrices faites par le sabre témoignaient seules de la gravité des blessures du vieux Cosaque. Pourtant, il était devenu visiblement morose et chagrin. Trois rides profondes avaient creusé son front où elles restèrent désormais. Quand il jeta les yeux autour de lui, tout lui parut nouveau dans la Setch. Tous ses vieux compagnons étaient morts. Il ne restait pas un de ceux qui avaient combattu pour la sainte cause, pour la foi et la fraternité. Ceux-là aussi, qui, à la suite du Kochevoy, s'étaient mis à la poursuite des Tatars, n'existaient plus. Tous avaient péri. L'un était tombé au champ d'honneur, un autre était mort de faim et de soif au milieu des steppes salées de la Crimée. Un autre encore s'était éteint dans la captivité, n'ayant pu supporter sa honte. L'ancien Kotchevoï aussi n'était plus, dès longtemps, de ce monde, ni aucun de ses vieux compagnons, et déjà l'herbe du cimetière avait poussé sur les restes de ces Cosaques, autrefois bouillonnants de courage et de vie. Taras entendait seulement qu'autour de lui, il y avait une grande orgie, une orgie bruyante. Toute la vaisselle avait volé en éclats. Il n'était pas resté une goutte de vin. Les hôtes et les serviteurs avaient emporté toutes les coupes, tous les vases précieux, et le maître de la maison demeurait solitaire et morne, pensait que mieux eût valu qu'il n'y eût pas de fête. On s'efforçait en vain d'occuper et de distraire Taras. En vain les vieux joueurs de bandoura à la barbe grise défilaient par deux et par trois devant lui. chantant ses exploits de cosaque. Il contemplait tout d'un œil sec et indifférent. Une douleur inextinguible se lisait sur ses traits immobiles, et sa tête penchée, il disait à voix basse « Mon fils Ostape !» Cependant, les Aporogues s'étaient préparés à une expédition maritime. 200 bateaux avaient été lancés sur le Dniepr, et l'Asie mineure avait vu ses cosaques, à la tête rasée, à la tresse flottante, mettre à feu et à sang ses rivages fleuris. Elle avait vu les turbans musulmans, pareils aux fleurs innombrables de ses campagnes, dispersés dans ses plaines sanglantes ou nageant auprès du rivage. Elle avait vu quantité de larges pantalons cosaques tachés de goudron, quantité de bras musculeux armés de fouets noirs. Les Aporoges avaient détruit toutes les vignes et mangé tout le raisin. Ils avaient laissé des tas de fumier dans les mosquées. Ils se servaient en guise de ceinture des châles précieux de la Perse et enseignaient leurs caftans salis. Longtemps après, on trouvait encore, sur les lieux qu'ils avaient foulés, les petites pipes courtes des Aporogues. Tandis qu'ils s'en retournaient gaiement, un vaisseau turc de 10 canons s'était mis à leur poursuite et une salve générale de son artillerie avait dispersé leur bateau léger comme une troupe d'oiseaux. Un tiers d'entre eux avait péri dans les profondeurs de la mer. Le reste avait pu se rallier pour gagner l'embouchure du Dniepr avec 12 tonnes remplies de sequins. Tout cela n'occupait plus Taras. Ils s'en allaient dans les champs, dans les steppes, comme pour la chasse. Mais son arme demeurait chargée. Il la déposait près de lui, plein de tristesse, et s'arrêtait sur le rivage de la mer. Il restait longtemps assis, la tête baissée, et disant toujours « Mon Ostape, mon Ostape !» Devant lui brillait et s'étendait au loin la nappe de la mer Noire. Dans les joncs lointains, on entendait le cri de la mouette, et sur sa moustache blanchie, des larmes tombaient, l'une suivant l'autre. À la fin, Taras n'y tint plus. « Qu'il en soit ce que Dieu voudra, dit-il, j'irai savoir ce qu'il est devenu. Est-il vivant? Est-il dans la tombe? Ou bien n'est-il même plus dans la tombe? Je le saurai à tout prix, je le saurai. » Et une semaine après, il était déjà dans la ville d'Ouman, à cheval, la lance en main, le sabre au côté, le sac de voyage pendu au pommeau de la selle. Un pot de gruau, des cartouches, des entraves de cheval et d'autres munitions complétaient son équipage. Il marcha droit à une chétive et sale masure dont les fenêtres ternies se voyaient à peine. Le tuyau de la cheminée était bouché par un torchon et la toiture percée à jour, toute couverte de moineaux. Un tas d'ordures s'étalait devant la porte d'entrée. À la fenêtre apparaissait la tête d'une juive en bonnet ornée de perles noircies. « Ton mari est-il dans la maison ?» dit Boulba en descendant de cheval et en passant la bride dans un anneau de fer scellé au mur. « Il y est, » dit la juive, qui s'empressa aussitôt de sortir avec une corbeille de froment pour le cheval et un prog de bière pour le cavalier. « Où donc est-on, juif ?»« Dans notre chambre, à faire ses prières, » murmura la juive en saluant Boulba et en lui souhaitant une bonne santé au moment où il approcha le bro de ses lèvres. « Reste ici, donne à boire et à manger à mon cheval. J'irai seul lui parler, j'ai affaire à lui. » Ce juif était le fameux Yankel. Il s'était fait à la fois fermier et aubergiste. Ayant peu à peu pris en main les affaires de tous les seigneurs et obereaux des environs, il avait insensiblement sucé tout leur argent et fait sentir sa présence de juif sur tout le pays. À 3 000 à la ronde, il ne restait plus d'une seule maison qui fût en bon état. Toutes vieillissaient et tombaient en ruine. La contrée entière était devenue déserte, comme après une épidémie ou un incendie général. Si Ankel eût habité une dizaine d'années de plus, il est probable qu'il en eût expulsé jusqu'aux autorités. Taras entra dans la chambre. Le juif priait, la tête couverte d'un long voile, assez malpropre, et il s'était retourné pour cracher une dernière fois selon le rite de sa religion, quand, tout à coup, ses yeux s'arrêtèrent sur Bulba qui se tenait derrière lui. Avant tout brillèrent à ses regards les 2000 ducats offerts pour la tête du Cosaque. Mais il eut honte de sa cupidité et s'efforça d'étouffer en lui-même l'éternelle pensée de l'or, qui, semblable à un ver, se replie autour de l'âme d'un juif. « Écoute, Yankel, dit Taras au juif, qui s'était mis en devoir de le saluer et qui alla prudemment fermer la porte, afin de n'être vu de personne. Je t'ai sauvé la vie. Les Cosaques t'auraient déchiré comme un chien. Et à ton tour, maintenant, rends-moi un service. » Le visage du juif se rembrunit légèrement. « Quel service? Oh, si c'est quelque chose que je puisse faire, pourquoi ne le ferais-je pas? Ne dis rien. Mène-moi à Varsovie. » « À Varsovie? Comment à Varsovie? » dit Yankel. Et il haussa les sourcils et les épaules d'étonnement. « Ne réponds rien, mène-moi à Varsovie. Quoi qu'il en arrive, je veux le voir encore une fois. Lui dire ne fût-ce qu'une parole. » « Mais à qui dire une parole ? Mais à lui, à Ostap, à mon fils ? Mais est-ce que ta seigneurie n'a pas entendu dire que déjà ? Je sais tout, je sais tout. On offre 2000 ducats pour ma tête. Les imbéciles savent ce qu'elle vaut. Je t'en donnerai 5 000, moi. Voici 2000 ducats comptant. » Bulba tira 2000 ducats d'une bourse en cuir. « Et le reste, quand je reviendrai ?» Le juif saisit aussitôt un essuie-main et en couvrit les ducats. « Oh, la belle monnaie ! Oh, la belle monnaie » s'écria-t-il en retournant un ducat entre ses doigts et en l'essayant avec les dents. « Je pense que l'homme à qui ta seigneurie a enlevé ses excellents ducats n'aura pas vécu une heure de plus dans ce monde. » Mais qu'il sera allé tout droit à la rivière et s'y sera noyé, après avoir eu de si beaux ducats. Je ne t'en aurais pas prié, peut-être aurais-je trouvé moi-même le chemin de Varsovie, mais je puis être reconnu et pris par ces damnés Polonais, car je ne suis pas fait pour les inventions. Mais vous autres juifs, vous êtes créés pour cela. Vous tromperiez le diable en personne. Vous connaissez toutes les ruses. C'est pour cela que je suis venu te trouver. D'ailleurs, à Varsovie, je n'aurais non plus rien fait par moi-même. Alors, mets vite les chevaux à la charrette et conduis-moi lestement. Et ta seigneurie pense qu'il suffit tout bonnement de prendre une bête à l'écurie, de l'attacher à une charrette et, allons, marche en avant. Mais ta seigneurie pense qu'on peut la conduire ainsi, sans l'avoir bien caché ? Eh bien, cache-moi, comme tu sais le faire, dans un tonneau vide, n'est-ce pas ? Ouais, ta seigneurie pense qu'on peut la cacher dans un tonneau. Est-ce qu'elle ne sait pas que chacun croira qu'il y a de l'eau de vie dans ce tonneau ? Eh bien, qu'il croit qu'il y a de l'eau de vie. Comment qu'il croit qu'il y a de l'eau de vie ? S'écria le juif, qui saisit à deux mains ses longues tresses pendantes et les leva vers le ciel. Mais qu'as-tu donc à t'ébahir ainsi? Mais est-ce que ta seigneurie ignore que le bon Dieu a créé l'eau de vie pour que chacun puisse en faire l'essai? Ils sont là-bas un tas de gourmands et d'ivrognes. Le premier gentillâtre venu est capable de courir 5 verstes après le tonneau, d'y faire un trou. Et quand il verra qu'il n'en sort rien, il dira aussitôt « Un juif ne conduirait pas un tonneau vide. À coup sûr, il y a quelque chose là-dessous. Qu'on saisisse le juif, qu'on garrotte le juif, qu'on enlève tout son argent au juif, qu'on mette le juif en prison. Parce que tout ce qu'il y a de mauvais retombe toujours sur le juif. Parce que chacun traite le juif de chien. Parce qu'on se dit qu'un juif n'est pas un homme. Eh bien alors, mets-moi dans un chariot à poissons. Impossible, Dieu le voit, c'est impossible. Maintenant, en Pologne, les hommes sont affamés comme des chiens. On voudra voler le poisson et on découvrira ta seigneurie. Eh bien, conduis-moi au diable, mais conduis-moi. Écoute, écoute, mon seigneur, dit le juif en abaissant ses manches sur ses poignets et en s'approchant de lui, les mains écartées. Voici ce que nous ferons. Maintenant, on bâtit partout des forteresses et des citadelles. Il est venu de l'étranger des ingénieurs français et l'on mène par les chemins beaucoup de briques et de pierres. Que ta seigneurie se couche au fond de ma charrette et j'en couvrirai le dessus avec des briques. Ta seigneurie est robuste, bien portante. Aussi ne s'inquiétera-t-elle pas beaucoup du poids à porter. Et moi, je ferai une petite ouverture par en bas, afin de pouvoir te nourrir. Bon, fais ce que tu veux, seulement conduis-moi. Et au bout d'une heure, un chariot chargé de briques et attelé de 2 rosses sortait de la ville d'Ouman. Sur l'une d'elles, Yankel était juché, et ses longues tresses bouclées voltigeaient par-dessus sa cape de juif, tandis qu'il sautillait sur sa monture, long comme un poteau de grande route.